Accent d'Europe, Frédéric Lebel.
Daugiau niekas nebesakytų, kad mes nepadarė namų darbų ir neskaitė darbo kodeksą, kurį mes skaitėm jau.
Bonjour à tous. Il y a aussi une nouvelle loi travail en Lituanie et il y a désormais aussi un mouvement Nuit debout dans ce petit pays balte. En juin dernier, le Parlement a en effet adopté un nouveau code du travail ultra-libéral qui prévoit de nouveaux contrats zéro heure et rogne le pouvoir des syndicats. Hier, coup de théâtre, la présidente lituanienne a demandé au Parlement de revoir sa copie, ce qui donne plus de poids aux militants qui demandent le retrait du texte et campent sur le parvis face au gouvernement. Reportage sur place signé Marielle Vituro.
Les activistes ont planté une dizaine de tentes sur la place Vincas Kudirka, auteur de l'hymne lituanien, devant le siège du gouvernement. Leur mouvement s'appelle « La vie est trop chère » à comprendre dans tous les sens du terme. Et ils martèlent leur unique revendication.
Nous exigeons de la présidente qu'elle impose son veto à ce code du travail.
Justinas est l'un de ces activistes. Étudiant en philosophie, il a rejoint le mouvement créé Mime à Kaunas, la deuxième ville du pays, après une vague de protestations contre le coût élevé de la vie initié par des étudiants et la société civile. Assis au balcon du Parlement lors du vote de ce code, il analyse la portée de ce nouveau texte.
Ce code met l'employeur et l'employé sur un pied d'égalité, ce qui est bien loin d'être conforme à la réalité. Dans ce texte, le salarié n'est plus protégé. Par exemple, on m'a déjà menacé de licenciement si je n'acceptais pas de signer un nouveau contrat sous de nouvelles conditions. On a même parlé de me faire rembourser les frais engagés par l'employeur pour me former.
Parmi les points les plus controversés, l'introduction des contrats zéro heure, ces contrats sans garantie horaire de travail et donc sans protection sociale, des préavis de licenciement plus courts, des indemnités rabotées. Dalia Jakutavice, à la tête des syndicats de l'industrie, a elle aussi planté sa tente sur la place.
Dès le début des négociations, nous avons subi une pression très forte de la part du gouvernement. Il fallait tout négocier très vite, sans aller dans les détails. Les syndicats avaient pour rôle de tout approuver le plus vite possible, sans avoir la possibilité de faire des propositions. Ce genre de dialogue n'a rien de constructif. La Lituanie pourrait être la souris de laboratoire de l'Union européenne. Si le texte est adopté ici, cette vague pourrait déferler dans toute l'Europe.
Pour rappeler, le Premier ministre à enfin franchir le ruban stop qui sépare le gouvernement des tentes et pour l'inciter à venir dialoguer, Aïsté, étudiante aux Beaux-Arts, s'époumonne régulièrement au son de son tambour. Le système de poids, de mesure en vigueur, l'écœure.
Par exemple, les personnes employées dans le secteur des nouvelles technologies sont favorisées. Le manque de spécialistes dans ce secteur est criant et comme elles sont hautement qualifiées, on leur propose des salaires attractifs, toutes sortes de garanties. Mais si tu es un simple vendeur ou serveur, les employeurs n'hésitent pas à te manipuler, comme si ton travail n'était pas important.
Assemblée générale avec micro ouvert à tous, atelier bande dessinée pour dénoncer en images les travers de ce nouveau code. Dès le début de l'après-midi, la place Kudirka s'anime jusqu'en début de soirée. Ce mode de protestation est complètement inédit en Lituanie. Gražina Grusdienė, responsable syndicale de haut vol, s'en réjouit.
Le fait que des jeunes interpellent des jeunes, cela donne beaucoup plus de poids à leur action. J'espère qu'ils rejoindront à terme le mouvement syndical. Ils ont une vision, des pratiques différentes qui permettent de nous renouveler. L'inertie est très forte parmi les Lituaniens. La peur héritée de l'époque soviétique est toujours là, tout comme un manque d'éducation. Lors de notre dernière grève, on a même menacé certains d'entre nous. On nous disait que les huissiers allaient venir pour saisir nos biens.
Benediktas, étudiant en master de sciences politiques, est l'un des fers de lance du mouvement. La condescendance des autorités à l'égard du mouvement l'exaspère, mais il ne désespère pas.
Le pouvoir est très sceptique à notre égard. Si jamais nous étions contraints d'arrêter ce mouvement du jour au lendemain, on pourrait toujours continuer à partager toutes nos informations, notre réflexion, avec les passants qui s'arrêtent pour parler avec nous. En plus de partager tout cela sur les réseaux sociaux, cela va forcément inciter à une prise de conscience.
La présidente a renvoyé le texte devant le Parlement pour l'améliorer. La protection des plus faibles n'est pas assurée dans ce code, selon elle. Le Parlement dispose encore de la possibilité de rejeter le veto présidentiel. Tous les partis politiques ont approuvé ce texte libéral proposé par les sociaux-démocrates. Le résultat des élections législatives de l'automne sera donc très intéressant à suivre.
Et on manifeste aussi en Hongrie, certes en petit nombre, mais en scandant haut et fort. Le pays est malade, il faut le guérir. En cause, le système de santé qui est à l'agonie. Et c'est une infirmière, Maria Sándor, qui mène ce combat. Son portrait est signé Florence Labruyère.
Elle est infatigable, Maria Sándor. Cette belle femme de 43 ans, aux longs cheveux noirs, a un physique de sportive et un visage de madone. Depuis plus d'un an, elle parcourt le pays. Elle rencontre les habitants, organise des manifestations. Son objectif ? Secouer l'inertie des Hongrois, les pousser à se mobiliser contre l'état désastreux des hôpitaux, contre les conditions de travail déplorables du personnel de santé. Le combat de Maria Sándor a commencé il y a un peu plus d'un an. En avril 2015, elle demande aux infirmières de tout le pays de s'habiller en noir pendant une journée. Le noir, symbole d'une profession en train de mourir. En Hongrie, une infirmière avec 30 ans de métier gagne 300 euros net par mois. Beaucoup travaillent 240 heures et les heures supplémentaires ne sont pas payées. Dans les hôpitaux, on compte une infirmière pour 60 malades. La charge de travail est 10 fois plus élevée qu'en Allemagne. Mais Maria ne se bat pas uniquement pour une augmentation de salaire. Elle dénonce aussi une organisation féodale qui oblige les infirmières à cotiser à une chambre professionnelle censée défendre leurs intérêts. Mais cet organisme est en fait sous le contrôle des directeurs d'hôpitaux et ne fait rien pour le personnel soignant. À cause de son combat, Maria Sándor a perdu son poste à l'hôpital. Elle travaille aujourd'hui au service social d'une municipalité. Une cinquantaine de collègues ont rejoint son action. Ils s'habillent tous en t-shirt noir quand ils se retrouvent pour un débat ou une manifestation. Mais contrairement à ce que Maria Sándor espérait, il n'y a pas de mobilisation massive dans le pays. Plutôt que de se battre, les infirmières quittent le pays vers l'Allemagne ou l'Angleterre où les salaires sont 5 fois plus élevés.
I am an European.
Plus de 3 millions de Britanniques ont signé une pétition demandant la tenue d'un nouveau référendum. Ils étaient plusieurs dizaines de milliers à manifester dans ce sens le week-end dernier à Londres. Mais peut-on revenir en arrière? À regarder les précédents référendums sur l'Europe, on constate que l'UE a toujours su composer avec les résultats négatifs en limitant les conséquences fâcheuses. C'est ce que nous allons voir avec Daniel Vigneron du site myeurope.info. Bonjour Daniel.
Bonjour Frédéric.
Quand les électeurs européens se prononcent sur l'Europe, le sens de leur vote est-il toujours respecté, Daniel?
La réponse est complexe. Depuis 1972, sans tenir compte de 7 votations suisses, les citoyens européens ont été appelés à se prononcer sur une question concernant l'Europe à 45 reprises. Si l'on exclut 10 référendums concernant l'élargissement de l'Union, ces scrutins ont impliqué 12 pays, dont 2 se détachent nettement, l'Irlande avec 9 consultations et le Danemark avec 8. Ces 2 pays étant les seuls à imposer une consultation populaire lorsqu'il s'agit d'un traité international ou que la décision implique un transfert de souveraineté. Sur 45 référendums, 12 ont suscité une réponse négative de l'électorat concerné.
Et sur quel sujet portait-il ?
Alors, outre le Brexit, bien sûr, 2 consultations ont porté sur l'appartenance de la Norvège à l'Union, appartenance que ce pays a rejetée 2 fois, en 1972 et en 1994. 2 autres ont porté sur l'appartenance à la zone euro, que le Danemark a rejetée en 2000 et la Suède en 2003. Ces noms ont été pris en compte par l'Union, car un pays qui refuse d'adhérer ne peut à l'évidence y être contraint. Mais 2 autres référendums récents ont reçu une réponse négative. L'un en décembre dernier au Danemark, les Danois ayant rejeté le renforcement de la coopération en matière de police et de justice. L'autre aux Pays-Bas, où un scrutin simplement consultatif a abouti au rejet de l'accord d'association UE-Ukraine. Le nom des Danois n'a pas de conséquences pour l'UE. Quant au nom des Néerlandais, ils pourraient bloquer l'accord avec l'Ukraine, mais il n'a pas de force juridique. En fait, pour ces 6 consultations précitées, un vote de rejet ne comportait en rien un risque de blocage de l'Union. Il n'en est pas de même pour les 5 autres référendums négatifs qui tous ont été contournés par l'UE.
Vous voulez dire qu'on n'aurait pas respecté le vote des peuples ?
Ben, on a fait en sorte de limiter au maximum les conséquences de ce vote. Premier cas, le 2 juin 1992, le Danemark rejette à 50,7% le traité de Maastricht instaurant l'Union européenne et l'Union économique et monétaire. Un résultat très étroit, mais difficilement contestable avec une participation de 83%. Il risquait cependant de bloquer la mise en œuvre d'un texte très difficilement négocié. Du coup, l'Union et le Danemark ont renégocié des mois durant un régime particulier pour Copenhague, comportant des options de retrait dans quatre domaines, dont la monnaie unique, ce qu'avait d'ailleurs obtenu déjà quelques mois auparavant le Royaume-Uni, et l'Europe de la défense. Du coup, les Danois ont revoté en 1993 sur ce traité européen aménagé pour eux, et ils l'ont adopté cette fois à 56%. Un tel processus s'est répété par deux fois pour l'Irlande, qui avait rejeté en juin 2001 le traité de Nice et encore en juin 2008 le traité de Lisbonne. Là, pas d'aménagement formel des traités, mais de simples garanties et engagements informels pour la reconnaissance de spécificités celtiques concernant la fiscalité, la défense ou l'interruption de grossesse. Par deux fois, 16 mois plus tard, la petite Irlande a revoté, cette fois dans le bon sens.
Et puis, il y a eu le non français de 2005.
Oui, le rejet par 55% des Français et, trois jours plus tard, par 61% des Néerlandais du traité constitutionnel européen, le TCE. Cette fois, l'affaire est vraiment chaude, venant de deux membres fondateurs de l'Europe. Après plus de 2 ans de flottement, l'Union va se remettre sur les rails par la négociation d'un nouveau traité, celui de Lisbonne, venant se substituer en partie au défunt traité constitutionnel.
Et beaucoup ont parlé alors de déni de démocratie.
Oui, on pourrait le dire ainsi, ou bien parler de réal politique. De fait, il fallait bien reconstruire quelque chose. On a donné le change en renonçant à la fusion des traités européens en un seul. Nous avons toujours le traité de Maastricht et le traité de Rome, renommé traité sur le fonctionnement de l'Union. On a supprimé le ministre des Affaires étrangères de l'Union, renoncé à inclure la charte des droits fondamentaux dans le traité. Bref, on a repris l'essentiel des conclusions de la conférence intergouvernementale qui avait abouti au TCE, mais gommer tous les aspects fédéralistes qui donnaient à ce traité rejeté son caractère de constitution. Et rester un mauvais souvenir qui ne passe toujours pas pour certains. Ni les Français ni les Néerlandais n'ont appelé leurs citoyens à se prononcer de nouveau.
En somme, quand l'Europe est menacée, on fait plutôt bon marché de la vie des peuples.
Oui, c'est le vrai problème de la construction européenne. Elle est à la mesure de l'immense complexité du monde économique, financier et juridique moderne. Et l'on aboutit à un système dont on ne peut plus remettre en cause, même démocratiquement, les fondements. Il en va ainsi pour le Brexit. La Fondation Schuman vient de publier une analyse juridique très complète des conséquences de ce Brexit. Elle aboutit à la conclusion que toutes les hypothèses impliquant un Royaume-Uni hors de l'UE sont impraticables parce que la reconstruction d'un pays indépendant exigerait des efforts trop lourds et trop durables pour être compatible avec la bonne marche des économies. Celle du Royaume-Uni, mais aussi celle de l'Union, qui ne peut couper les liens avec une nation représentant 20% de son PIB total, 15% de son commerce extérieur et 23% de ses exportations de services. Alors, ou bien on réussit à faire revoter les Britanniques, cette fois dans le bon sens, ou bien l'on instaure une Europe à plusieurs vitesses acceptable par ceux qui refusent l'intégration politique. Dans cette affaire, l'idée européenne est en grand danger, car les eurosceptiques ne se contenteront plus d'espérer que la démocratie détruise la construction européenne. Ils auront des arguments pour affirmer que l'Europe rend la démocratie non pertinente.
Merci beaucoup Daniel Vigneron, on vous retrouve la semaine prochaine.
À bientôt Frédéric.
Qui sont les derviches, ces mystiques musulmans qui comptent de nombreux fidèles dans les Balkans et qui prônent un islam modéré? Ils avaient déjà survécu à la période communiste, les voilà désormais en butte à l'introduction d'un islam sunnite rigoriste dans la région. Reportage sur ces ordres soufis de l'Albanie au Kosovo, signé Laurent Gélin et Simon Rico.
La petite ville de Rauvets se niche entre les vignes qui grimpent sur les collines du sud-ouest du Kosovo. Des minarets et une église orthodoxe autour de laquelle sont regroupés les quelques centaines de Serbes qui ne sont pas partis après le conflit de 1999. En contrebas, une grande bâtisse de pierre, la Teke, où les fidèles se rassemblent. C'est ici que siège le Cheikh Merdi, le chef spirituel des derviches de la confrérie Rifaï.
Nous sommes tous des esclaves de Dieu, nous avons tous des devoirs, des obligations. Le Cheikh, c'est un guide, il accompagne les fidèles sur la voie de Dieu, spirituellement, par ses actions, par ses paroles. Le Cheikh doit conduire les fidèles par le cœur, par l'esprit, mais aussi par le corps, pour qu'ils soient dans la voie de Dieu. Nous qui croyons en Dieu, nous devons vivre dans la paix, comme l'exige Allah.
Les derviches pratiquent un islam mystique divisé en plusieurs voies qui définissent autant de confréries différentes. Chaque voie descend d'un saint fondateur perçu comme un successeur du prophète et des premiers imams. Chaque confrérie a ses propres codes et une façon bien particulière de pratiquer le zikr, la prière rituelle. La musique et les chants sont très présents dans les cérémonies derviches, contrairement à l'islam sunnite.
Il y a une légende qui raconte que Mahomet, que la paix soit avec lui, voulait transmettre un secret à Ali. Il lui a dit « Je vais te transmettre un secret, mais tu ne dois le confier à personne ». Au moment de mourir, comme il n'avait pas le droit de parler, Ali a pris une flûte et lui a transmis le secret. Chaque homme a son secret. Quand la flûte pleure, chaque homme pleure avec la flûte, et quand il rit, il entend rire la flûte.
La plupart des derviches ne fréquentent jamais les mosquées et leurs pratiques religieuses se concentrent à la teke, qui est aussi un lieu de sociabilité. C'est là qu'ils se réunissent autour de leur cheikh pour écouter ses enseignements ou lui exposer leurs problèmes. James Dean, un jeune garçon tout juste sorti de l'adolescence, se rend souvent à la teke de Mellan, dans le sud de l'Albanie.
Tout musulman et tout chrétien peut venir ici car c'est la maison de Dieu qui est notre guide spirituel. Chaque musulman qui va à la mosquée peut aussi aller à la teke. Moi, je suis un fidèle. Je viens ici parce que je suis croyant et qu'ici on peut trouver Dieu pour tout ce dont on a besoin. Je ne suis pas le seul à venir ici. Il y a beaucoup de gens, des jeunes de mon âge, des femmes, des enfants qui viennent y travailler bénévolement. Ici, on est bien. On trouve la paix spirituelle.
L'existence des derviches n'a jamais été menacée sous la Yougoslavie socialiste, mais ils ont bien failli disparaître en Albanie. En 1967, le dictateur communiste Enver Hoxha interdit toutes les religions, les lieux de culte sont fermés ou détruits, et les prêtres, les imams et les cheikhs sont jetés en prison. Cet islam soufi s'est pourtant transmis dans le secret, comme le raconte le jeune cheikh Ali, qui guide la confrérie Alveti de Tirana.
Les cérémonies étaient interdites, mais avec l'aide de Dieu, on réussissait à les organiser dans notre maison. À l'époque, elles avaient lieu dans la cave ou dans une grande pièce dont on bouchait les fenêtres et fermait les portes. Certains fidèles restaient dehors pour protéger la maison, mais il y avait toujours beaucoup de monde.
En Albanie, la confrérie la plus importante est celle des Bektashi, qui a joué un rôle important dans la construction de l'identité nationale. Elle regrouperait environ 2% des 3 millions d'habitants du pays selon le recensement de 2011, mais ses fidèles pourraient être en réalité beaucoup plus nombreux. Contrairement aux autres confréries, les Bektashi respectent une hiérarchie stricte. Ils obéissent au Baba Mondi, leur chef spirituel basé à Tirana depuis la fin des années 1920. Les derviches Bektashi ont un statut comparable à celui des moines. Murtazar est l'un des derviches de la teke de Mellan.
Haji Bektash Veliu, c'est le grand mystique qui a fondé notre tarika. En Albanie, le bektashisme a commencé en 1300, quand le premier missionnaire venu d'Anatolie est arrivé à Krouya. Depuis, il se perpétue. Il y a bien sûr eu une rupture pendant le communisme. Des babas ont été emprisonnés, certains ont été tués. Mais notre chef, le Baba Mondi, est resté. Ce n'est pas dans le bektachisme en particulier que nous devons croire, mais en l'islam. Le bektachisme n'est qu'une voie de l'islam.
Les confréries derviches sont aujourd'hui montrées du doigt par les tenants de la version rigoriste de l'islam sunnite des pays du Golfe, de plus en plus influents dans les Balkans. En cause, leurs pratiques particulières que les instances dirigeantes musulmanes locales considèrent comme hétérodoxes. Voilà qui n'empêche pas cet islam différent de se maintenir et même de se revitaliser dans certaines zones grâce à son étonnante capacité d'adaptation.
Accent d'Europe était réalisé aujourd'hui par Mathieu Salabert. Retrouvez-nous sur notre site rfi.fr et sur les réseaux sociaux. À demain.